Chapitre 5. La croissance économique est-elle compatible avec la préservation de l'environnement ? Grand 1. Les limites environnementales de la croissance économique actuelle. Depuis la fin du XIXe siècle, de nombreux pays ont connu une croissance économique soutenue, qui s'est traduite par une augmentation considérable de la production de biens et services, par un développement sans précédent de la consommation finale et une élévation du niveau de vie des individus. Parallèlement, cette croissance productiviste a favorisé l'apparition et l'extension de pollutions multiples et de dégradations de l'environnement de plus en plus préoccupantes qui détériorent le capital naturel. Trois limites majeures décrivent ces risques écologiques et la nécessité de promouvoir une croissance économique davantage en harmonie avec l'environnement. Les émissions de CO2 et le réchauffement climatique, l'épuisement de certaines ressources naturelles, la réduction de la biodiversité. Grand 2. Les coûts humains de la croissance économique actuelle. Les limites du productivisme mettent en cause la soutenabilité du mode de croissance actuel. D'ores et déjà, les études en termes d'empreinte écologique montrent que la Terre ne suffit plus à supporter l'intensité de la croissance, qu'il faudrait 4 ou 5 planètes pour généraliser au monde le niveau de vie des pays les plus riches. Des activités économiques touchant à l'alimentation mondiale, comme la pêche par exemple, sont en grand danger. Plus grave encore, l'évolution actuelle se manifeste par un coût humain croissant et inéquitable, principalement supporté par ceux qui ont le moins de responsabilités dans la dégradation environnementale, et tout particulièrement par les populations des pays en développement vivant de l'agriculture et de la pêche. Coûts environnementaux et coûts humains, dégradation des capitaux humains, physiques et institutionnels, sont donc des traductions communes et indissociables de la faible soutenabilité de la croissance actuelle. Grand 3. Le développement durable, une croissance soucieuse de l'environnement. Consciente des risques écologiques dès 1987, la commission Brundtland tire la sonnette d'alarme et annonce la nécessité de repenser les modes de croissance en vigueur et de proposer un développement durable caractérisé par une croissance soutenable permettant aux générations présentes de satisfaire leurs besoins sans remettre en cause la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. Par la suite, l'approfondissement et la prise de conscience croissante des interdépendances et des cadres économiques, sociaux et environnementaux du développement durable ont permis de préciser les conditions d'une croissance nouvelle, écologiquement et socialement supportable, qui maximise les effets désirables de la production et de la consommation tout en minimisant leurs effets indésirables. Grand 4. Vers de nouvelles pratiques environnementales. L'importance et l'urgence des enjeux de la préservation de l'environnement ont largement contribué à une prise de conscience de nombreux individus et agents économiques qui ont modifié et adapté leur comportement au profit de pratiques éco-responsables. C'est ainsi que le choix d'équipements industriels ou d'appareils ménagers économes en énergie se développe. De nombreuses entreprises amplifient leurs dépenses de recherche et développement pour réaliser des innovations favorables à l'environnement. Les initiatives permettant de préserver les ressources naturelles se multiplient, pisciculture, utilisation des énergies renouvelables. Enfin, de nombreux consommateurs privilégient les choix éco-responsables, circuits courts, covoiturage, tri sélectif. Grand 5. Les objectifs des politiques environnementales. Par leur capacité d'action sur les sociétés, les pouvoirs publics sont les acteurs privilégiés de la mise en œuvre d'initiatives et d'orientations favorables au développement durable. Ils peuvent, à l'exemple de la France, décider d'engager une transition énergétique afin de réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le réchauffement climatique. Ils peuvent également modifier le mix énergétique à l'avantage des énergies renouvelables. Toutefois, la lutte pour rendre la croissance compatible avec la préservation de l'environnement ne peut être réduite à l'action d'un seul État. Elle nécessite au contraire l'intervention de groupes d'États comme l'UE par exemple et d'institutions internationales comme le GIEC. En effet, la pollution ne connaît pas de frontières et l'environnement est un bien commun dont la gestion soutenable implique le plus grand nombre. Grand 6. Forces et faiblesses des politiques environnementales. Les politiques environnementales représentent des conditions incontournables de la mise en place d'une croissance économique soutenable. D'une part, parce qu'elles disposent de l'autorité légale pour instituer et imposer de nouvelles normes de production et de consommation. D'autre part, parce que les méfaits de la croissance productiviste sont des externalités qui ne peuvent être régulées par le marché et nécessitent l'intervention des pouvoirs publics. Trois instruments privilégiés sont à l'origine de l'action publique en faveur de la préservation de l'environnement. La réglementation, la taxation, taxe carbone, écotaxe, et les systèmes de quotas d'émissions de CO2 mis en application dans l'Union européenne. Toutefois, au-delà de ces moyens coercitifs, les autorités publiques peuvent également mettre en place des dispositifs incitatifs favorisant l'adoption par défaut de comportements durables par les agents économiques. Enfin, compte tenu de la dimension planétaire des risques environnementaux et de leur urgence, les décisions et accords politiques internationaux jouent un rôle déterminant dans le rythme de la mise en œuvre d'un développement durable compatible avec la préservation de l'environnement.